Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mulcien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Voilà, c'est Hervé.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est
l'oreille dans le coin.
Je suis à la librairie Études et Loisirs de Crépien-Valois et je suis en face d'Agnès Marin, qui est écrivain et qui fait une dédicace aujourd'hui donc de votre dernier livre, j'imagine.
Oui, mon dernier roman qui s'intitule « L'étreinte » et qui est né suite au décès de mon père, qui est inhumé au cimetière d'Ermenonville. Il est donc décédé il y a 7 ans maintenant. Et donc, il nous a laissé une petite maison de campagne qu'il a acquise dans les années 60 et où, avec ma famille, je revenais régulièrement les fins de semaine et pendant les grandes vacances d'été surtout.
Donc, vous n'êtes pas de la région, mais vous y venez régulièrement.
Exactement, et des attaches sentimentales et littéraires aussi.
Littéraires,
hein. Oui, puisque mon père a été séduit par ce paysage, les paysages du Valois, parce qu'il aimait beaucoup la poésie, donc Gérard de Nerval, qui a marché sur les sentiers autour du village, et puis surtout Jean-Jacques Rousseau, qui est donc mort chez le marquis du Jardin.
Et vous avez envie de nous raconter votre vie d'écrivain ou d'écrivaine ? Quand est-ce que ça a commencé ? Comment c'est venu ? Est-ce que ça fait longtemps ?
J'ai l'impression depuis toujours, depuis toute petite, j'avais besoin de mettre en mots les choses qui m'émerveillaient. Ça a commencé par les oiseaux, le chant des oiseaux, leurs couleurs, on en avait à la maison. Et puis je regardais beaucoup à l'extérieur aussi. Je suis très attirée par la nature, le contact, les liens qui se tissent entre un paysage, entre les saisons et puis l'être humain. Et j'ai commencé donc à écrire de la poésie, elle n'a pas été publiée bien sûr. J'ai ensuite écrit des pièces de théâtre à l'adolescence.
Qui ont été jouées ?
Qui ont été présentées en lecture publique. Je n'ai pas trouvé de metteur en scène qui ait eu assez de courage pour faire connaître quelqu'un d'inconnu, même si ça a l'air paradoxal, il faut bien commencer par être connu. J'ai été à la Société des auteurs dramatiques, à la SACD, et puis ensuite, comme je n'étais pas montée, mes pièces n'étaient pas montées, je me suis tournée vers le roman, encouragée par ma mère. Et mes personnages, maintenant, vivent à travers des romans. La poésie est toujours bien vivante, en tout cas, j'ai publié donc, cette année un nouveau recueil, et un autre paraîtra en début de 2020, qui s'intitulera « Parce que mon amour vaut plus que tout ». Donc c'est un hymne à l'amour, c'est-à-dire en donner le plus possible. C'est la richesse la plus grande que l'être humain puisse posséder. Et je crois que c'est bien mis à mal de nos jours et il y a beaucoup de souffrance parce que justement elle ne s'exprime pas suffisamment.
C'est difficile d'écrire ?
Non, pour moi non. Je vis avec des petits carnets et quand une idée passe, un mot passe, je l'inscris dans le carnet. Ça laisse des petites pépites pour plus tard. C'est un petit peu comme on met une graine dans la terre et un jour elle germe. Ou bien le poème vient, je parle de poésie, il vient parfois d'un seul jet ou il vient par palier. Mais il y a toujours un enchantement, c'est-à-dire qu'il y a une idée qui passe. Moi je suis quelqu'un d'assez solitaire. J'aime beaucoup rencontrer mon public aussi, mais il y a beaucoup un travail de jachère et on creuse la terre qui se fait forcément tout seul.
On imagine qu'un écrivain, de toute façon, c'est un solitaire.
C'est un solitaire, oui. Parfois, la solitude a plusieurs aspects. Elle peut être pesante, parce que parfois, l'inspiration ne vient pas. Parfois, on se sent à l'écart du monde, parce qu'il y a quand même des bouffées de conscience. On se dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Est-ce que je vais être lu ? Donc, il y a le doute. Est-ce que ça va plaire à un éditeur ? Qu'est-ce que l'éditeur va en faire ? Est-ce qu'il va m'aider ? Est-ce qu'au contraire, il est embarrassé parce que c'est une trop petite structure, donc il va falloir que moi, j'y mette du mien, hein ? Donc, je vais de salon en salon. J'en connais pas beaucoup dans le Valois, hélas, hein, pas dans l'Oise.
Moi non plus.
Donc, je vais un peu partout en France et en région parisienne.
Et vous êtes édité par qui ?
Alors, actuellement, j'ai un bon éditeur, une petite structure qui s'appelle Complicité, qui est dans le 15e arrondissement de Paris et qui fait vraiment du beau travail sur le plan papier, présentation et édition pure. Vraiment, c'est très bien.
Mais il y a un accompagnement de l'éditeur ou pas, du coup, quand il relit
Vous voulez dire une intervention, des conseils ?
Oui.
De sa part, non. Je pense que ce que je fais lui convient et il n'y a pas de remise en cause de ce que je fais. Ce n'est pas quelqu'un qui va me contrarier dans mon inspiration, dans mes choix.
Et vous vous inspirez principalement de la réalité ou de personnes existantes et de la nature, ou alors ce sont des personnages fictionnels ?
Non, pas totalement. Non, il y a une base dans la réalité. Je m'inspire beaucoup des personnes qui me sont proches. Parfois, ça peut poser des problèmes. Je n'aime pas quelquefois que certaines personnes qui me connaissent bien se retrouvent ou croient se retrouver, parce qu'il y a quand même... Il y a une fiction, il y a tout un travail littéraire.
Il y a des traits de caractère qu'on peut retrouver
chez certains
de vos personnages.
Puis certaines situations. Mais l'écrivain est là pour exacerber, un peu exagérer la réalité, autrement on n'aurait pas d'intérêt. Les non-dits, les secrets de famille, les ruptures, les conflits de toutes sortes de générations, que ce soit les enfants, les adolescents, les personnes âgées. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la relation humaine. Et pourquoi on ne se comprend pas, et j'essaye de comprendre pourquoi il y a des choses qui ne sont pas dites. J'ai l'impression que les gens ne savent pas dire ce qu'ils ressentent, et j'essaie de le faire à leur place. Sans attaquer, ce ne sont pas des règlements de compte, c'est essayer de les faire venir vers l'émotion, la sensibilité. Et la pudeur est toujours là, mais il n'y a pas de méchanceté, et il n'y a pas de « moi, je », c'est tourner vers les autres. J'essaie d'apporter quelque chose à l'autre, et de l'apaiser, et de lui donner une direction vers la beauté des choses, vers l'émerveillement, puis la simplicité, l'humilité humaine qui fait que d'un seul coup autour de soi, les choses prennent vraiment beaucoup de prix, et beaucoup d'intérêt, on a envie de vivre, quoi. C'est donner envie de vivre aux gens.
C'est beau. Et est-ce qu'il y a des choses qui fâchent parfois certaines personnes, des non-dits justement qui seraient dans vos romans et qu'ils retrouveraient? Est-ce que ça peut arriver, ça?
Oui, ça peut arriver.
Il y a des règlements de compte, du coup, un petit peu?
C'est ce qu'ils croient l'être, mais pourtant, je traite bien mes personnages. J'ai beaucoup de tendresse, mais je les monte dans des situations où parfois, ça peut déconcerter. On peut prendre mal leur comportement. Et j'essaie toujours de rétablir l'équilibre en disant « mais vous n'êtes pas fautif ». Vous êtes victime de certains préjugés. Et si vous les abattez, ces préjugés, vous communiquerez mieux avec l'autre. Parce que je crois que, et surtout les femmes, les hommes aussi, mais les femmes ont des préjugés, sont dans des carcans. Et dans un de mes derniers romans, j'essaie de faire sauter ça. Je donne la parole à une jeune institutrice. C'est tiré d'une histoire vraie. C'est inspiré de ma propre expérience et de celle de ma grand-mère, qui était corse. Et cette jeune institutrice arrive dans un monde qui est victime, souffre de ses préjugés. Parce qu'elle est jeune, parce qu'elle est solide, elle est seule, elle a du talent, elle a un idéal, et ils ne l'accueillent pas comme ça. Ça suscite de la jalousie, du mépris, et puis elle arrive dans un monde où l'homme a l'autorité. Et j'ai tiré ce roman d'une histoire tragique. Je n'en dévoilerai pas la fin, bien sûr, mais elle est tragique. Mais j'ai voulu mettre en avant ce qu'une femme ou un être humain sensible, qui a beaucoup de force, qui a beaucoup d'espoir, a du mal à se faire entendre. Il y a une forme de pureté, ça s'appelle sous l'amandier en fleur. L'amandier, c'est l'arbre qui fleurit le 1er fin février, qui a de très belles fleurs blanches, qui est symbole donc de l'innocence et de la pureté. Et cet amandier symbolise cette jeune fille, cette jeune femme, qui croit en elle. Et je pense que toute personne devrait croire en elle. Et quand j'entends tous les jours à la radio, à la télévision, qu'il y a des jeunes, surtout des jeunes, qui manquent de confiance en eux et qui ne prennent pas le bon chemin, je me dis, mais où est-ce que la chance? Ils n'ont pas rencontré la chance. Qu'est-ce que c'est que la chance?
Ça met du temps parfois. On ne trouve pas forcément son chemin
je le vois
dès
bien,
le départ. En fait. Parfois, il se trace avec l'expérience de la vie aussi, en fait, je pense.
Donc, oui, il y a la vie, il y a le hasard.
Les envies, les rencontres, la curiosité.
C'est ça, la curiosité.
L'ouverture.
Oui, l'école a beaucoup à faire là-dedans. C'est pour ça que j'avais pris l'exemple de l'institutrice. On m'a dit parfois, oui, tu donnes l'image d'une institutrice idéalisée. Je ne crois pas, parce que moi je l'ai été un petit peu, j'étais professeure après, mais je l'ai été un petit peu et je crois que j'ai apporté des choses aux jeunes, même si j'ai quitté le métier. Je n'étais pas très aidée par mes collègues, je n'étais pas très aidée par certains directeurs ou directrices d'école. Je trouvais qu'il y a une grande indifférence, une grande apathie, une grande peur de sortir des sentiers battus. Et c'est ça dans mon livre que j'ai essayé de... Elle n'était pas dans les sentiers battus. Elle a parlé beaucoup de poésie, elle a parlé de la protection de la nature, elle a parlé de l'épanouissement personnel à travers l'expression artistique, et elle a parlé du rapport entre garçons et filles. Et je pense qu'aujourd'hui encore, il y a des personnes qui sont capables de faire de très belles choses. Des petites lumières dans la pénombre de la réalité.
Oui. Très joliment dit. Donc là, vous nous parlez de votre roman Sous l'amandier en fleurs. Est-ce que vous avez envie de nous parler davantage de L'étreinte ? Donc, c'était un hommage à votre père.
J'avais besoin d'écrire sur Ermenonville, tout ce que représente pour moi ce village et la campagne qui l'entoure. Le souvenir de mon père qui m'y a mené la première fois lorsque j'avais même pas... Ouais, j'avais 7 ou 8 ans. Oh non, avant, j'avais 4 ans. On louait une petite chambre dans le village et puis ensuite mon père a acquis cette maison de campagne, rue Souville, tout en face du château. Mes vacances m'ont beaucoup nourrie en sensations, en souvenirs, de promenades dans la forêt. La forêt prend une grande place dans le roman. Le souvenir de mon père, qui était jeune à ce moment-là. Le parc Jean-Jacques Rousseau, très très présent. Les lacs de la baie de Chaly. La cabane de Jean-Jacques Rousseau, là près de l'étang, du désert. Donc il y a des lieux qu'on reconnaît. Il y a le chemin des écrivains, donc où nous emmène le spectre, l'ombre de Gérard de Nerval. Et donc c'est un hommage à mon père. Et puis donc dans le roman, le personnage principal, qui est une femme, apprend que sa mère, suite au décès du père, décide d'aller s'installer au village. Toute seule. Elle veut emmener personne. Elle veut aider sa petite fille qui a un travail dans la région. Et elle délaisse donc sa fille. Et c'est une réalité. Donc j'ai pris de la matière dans la réalité et je l'ai tournée autrement. J'avais besoin de donner mon affection à ma mère et je l'ai tournée vers une vieille dame que je retrouve dans une maison isolée en haut du village et qui me compte toute sa vie. C'est une vie donc qui vient de loin puisqu'il y a eu à Ermenonville à une époque, avec le prince Radziwill, une émigration polonaise assez importante. Et beaucoup de Polonais se sont installés dans le village.
Il y en a toujours.
Il y en a toujours. Et donc, je raconte l'histoire de cette vieille Polonaise.
Qui n'existe pas, donc, dans la réalité. Non, ça, non. C'est un personnage fictionnel.
Je pense qu'il y en a, il y a dû en avoir, mais je ne les ai pas rencontrés. Et j'ai fait des études de russe, donc je suis très attachée au pays slave. Donc, tout ça, ça m'a parlé. Et je lui fais raconter tout ça à cette vieille dame, parce que ma mère ne veut pas me conter tout ça. Il y a des secrets, elle ne veut pas me les dire, et je sens des choses cachées. Et c'est une espèce de quête de ma mère à travers cette vieille dame, qui reçoit très bien d'ailleurs le personnage, qui a besoin de parler, parce que son fils à elle est au pôle Nord. C'est un explorateur, il est très très loin.
Et votre mère l'a lu ?
Oui.
Et vous avez eu des retours ? Après, si ça devient trop personnel, ne me répondez pas.
Ma mère est une femme extrêmement secrète, très pudique. Elle a émis quelques réserves, mais je ne vous dirai pas lesquelles. Mais elle me laisse libre, finalement. C'est comme ça que j'ai découvert ma mère. Elle me laisse libre et je lui dois beaucoup pour ça. Voilà. Mais je n'ai pas eu de problème, comme par exemple Lionel Duroy en a connu en publiant Le Chagrin dans son roman qui a eu du succès. Non, je n'irai pas jusque-là.
Très bien. Merci beaucoup Agnès Marin. Donc, on peut retrouver vos livres. J'imagine qu'ils seront donc vendus dans la librairie de Crépy-en-Valois. Et sinon, ils sont vendus un petit peu dans toutes les librairies.
Oui, on commande chez l'éditeur et sur le site de l'éditeur sur Internet.
Vous pouvez nous redonner le nom de l'éditeur.
Alors, Complicité pour L'étreinte et pour Sous l'amandier en fleurs, c'est L'Harmattan.
Très bien, oui, connu.
Merci beaucoup Agnès Marin. C'était Anne-Laure pour RVM. J'étais à la librairie Études et Loisirs pour la dédicace du dernier livre d'Agnès Marin, L'étreinte. À bientôt sur RVM, la radio qui vous écoute.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur,
à très vite sur l'antenne d'RVM.